Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. La précédente émission débutait par la colère de Zazie de ne pouvoir prendre le métro en raison des grèves. Cela se passait en 1859. Ce roman de Queneau résume bien la fascination qu'éprouvait une petite fille venue de province pour ce chemin de fer souterrain intramuros. C'était encore dans ces années-là un sujet d'émerveillement, le métropolitain. Et en 1960, Édith Piaf chantait « Le métro de Paris ».
Des escaliers mécaniques, portillons automatiques, couloirs de correspondance, hors de pointe et d'affluence, fourmilières en mosaïque, labyrinthes fantastiques, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent. Et le métro qui flânait sous Paris, doucement s'élance et puis s'envole, s'envole sur les toits de Paris. Des midinettes qui trottinent, des ouvriers qui cheminent, des dactylos qui se pressent, des militaires qui s'empressent, des employés qui piétinent, des amoureux qui butinent, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent. Et le métro qui planait sous Paris, doucement s'élance et puis s'envole, s'envole sur les toits de Paris. Des escaliers mécaniques, portillons automatiques, des bruits de pas qui résonnent dans les couloirs monotones, basiliques fantastiques dans le beau jour électrique. Le métro de Paris, gigantesque ver luisant, sur les toits de Paris, a tissé de fils d'argent. Et doucement, il s'étire sur les toits de Paris et glisse, 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 glisse.
L'histoire du métro ne débute pas avec l'inauguration de sa première ligne en 1900. Cette idée d'un chemin de fer urbain naquit dans l'esprit de deux ingénieurs, Édouard Braham, né en 1818 et mort en 1888, et Eugène Flachat, né lui en 1802 et mort en 1873. En effet, en ce milieu de 19e siècle, Paris était confronté à trois problèmes de circulation. L'engorgement des rues étroites, et oui, les grandes artères haussmanniennes n'avaient pas encore vu le jour. L'approvisionnement des denrées alimentaires, qui arrivait rapidement par les chemins de fer aux portes de Paris et qui devait être ensuite acheminé aux Halles par des charrettes. Et enfin, l'accroissement urbain, qui avait besoin des ouvriers. Or, ceci, à cause des grands travaux d'Haussmann, commencés en 1853, résidait de plus en plus dans les faubourgs. Quelques années auparavant, en 1846, un ingénieur, M. de Kerizouët, avait publié un petit ouvrage qui vantait les bienfaits de son projet de rue en fer, à savoir une voie recouverte d'immeubles passant à travers 23 rues, reliant ainsi les lignes de chemin de fer existantes à cette première ligne de fer qu'il nommait aussi Tamise de fer. Il partait d'un constat très simple, la locomotion parisienne. À l'étranger, l'intérieur de quelques villes jouit des avantages économiques inhérents aux nouveaux procédés de locomotion. L'économie de temps ne serait pas le moindre de ces avantages dans l'intérieur de Paris, où 29 000 voitures transportent journellement 200 000 personnes, soit 73 380 000 par an, le double de toute la population de la France, ou 32 000 charrettes par jour, entraînent un tonnage annuel de près de 5 millions de tonnes, où l'encombrement produit par cette effrayante locomotion se traduit au quartier central des Halles en une mortalité effrayante. Des ingénieurs célèbres se sont préoccupés depuis longtemps de l'utilité de pénétrer dans Paris par les moyens nouveaux. Monsieur Vallée a présenté un projet de chemin de fer du Nord qui partait de l'hôtel de ville. Monsieur Coréard a proposé de traverser Paris par les quais. Un ingénieur qui fait autorité dans les questions de travaux publics imprimait dans la presse il y a quelques mois à peine que la population parisienne ne serait pas toujours condamnée à ces embarcadères excentriques. Mais revenons en 1855 avec nos deux ingénieurs. Bram et Flachat prirent exemple sur le métro lodondien dont les travaux avaient débuté en 1855. C'était une ligne souterraine à une faible profondeur, ce qui permettait à deux lignes de se croiser l'une au-dessus de l'autre. L'on peut lire dans « Nouvelles annales de la construction » un article résumant leur projet. La question de l'établissement des chemins de fer dans l'intérieur des villes est une de celles qui préoccupent le plus en ce moment les ingénieurs et les municipalités. La plupart des gares terminales ou de passage des chemins de fer se sont arrêtées aux portes des villes. Souvent même, elles sont très loin d'y toucher. Les frais d'expropriation et d'indemnité d'une part, les difficultés des croisements dans les quartiers populaires de l'autre, quelquefois aussi le regret de couper par des remblais ou par des viaducs peu gracieux un bel alignement d'un aspect monumental, obtenu à grands frais, telles ont été les causes principales de l'ordre de choses actuel. Mais si l'on considère l'activité toujours croissante de la circulation sur voie ferrée et les inconvénients sérieux des longs parcours en omnibus, des transports et des transbordements incessants que nécessitent forcément les gares de chemin de fer éloignées, on voit qu'il devient de plus en plus indispensable de mettre une partie au moins des chemins de fer de chaque pays en communication directe avec le centre des villes. Trois solutions peuvent alors se présenter pour résoudre la difficulté. Les voies ferrées à niveau de sol, comme à New York, Cincinnati, Boston. Le passage en viaduc au-dessus des maisons, comme à Londres. Enfin, le passage en souterrain sous les boulevards, les rues et les maisons. C'est à cette dernière solution, la plus commode en effet pour le service et la moins nuisible à l'aspect des villes, que l'on s'est arrêté provisoirement pour les chemins de fer nouveaux à établir dans Londres et dans Paris. Il n'y aurait lieu de créer des chemins de fer supérieurs aux rues, sur bâtis à claire-voie par exemple, que si la solution des chemins de fer souterrains présentait des difficultés d'exécution par trop grandes ou donnait lieu à des dépenses par trop élevées. Or, chaque fois que l'on pourra s'établir sous une large chaussée continue, sous une rue principale, sous une promenade ou sous une ligne de boulevard, le système des chemins de fer souterrains sera une application très facile et se trouvera indiqué en quelque sorte par la nature même des choses. Nous présentons aujourd'hui à nos lecteurs l'ensemble du projet arrêté par messieurs Bram et Flachat pour faire communiquer le chemin de fer de ceinture avec les Halles centrales actuellement en construction. Un petit intermède avec une cantate de Berlioz composée en juin 1846 sur des paroles du fameux critique Jules Janin pour l'inauguration de la gare de Lille.
Jour du triomphe de la vie. La couronne est prête pour vous, ouvrier. La couronne est prête, la couronne est prête pour vous. Soldats de paix, c'est votre victoire. C'est à vous la gloire de tout le monde bien fait. C'est le grand jour, le jour de fête.
Yeah.
1861, un nouveau projet de métropolitain fut déposé à la Chambre et le journal Le Temps ne manqua pas d'insister sur son importance. Le métropolitain répond à un double besoin. C'est d'une part le complément naturel et depuis longtemps attendu des grands réseaux qui aboutissent à Paris. Il va les mettre tous en contact direct avec le centre de la capitale, réparant ainsi l'erreur étrange qui a fait reporter, par exemple, aux extrémités de la ville des gares aussi importantes que celles de Lyon et d'Orléans. Actuellement, il n'y a guère que la gare Saint-Lazare qui soit vraiment, par sa situation centrale, à la hauteur des exigences du public. Tout le monde sait quel surcroît de circulation elle doit à cette position exceptionnelle. Grâce au métropolitain, toutes nos lignes seront appelées au même avantage. Et l'on sent assez quelle transformation peut s'en suivre. D'autre part, au point de vue des moyens de communication intérieure, la nouvelle voie constitue un progrès manifeste. L'encombrement est déjà extrême sur certaines lignes desservies par des omnibus ou des tramways. Chacun sait par expérience à quelle perte de temps on est souvent condamné dans l'état actuel des choses. Sur le métropolitain, les trains se succéderont toutes les 3 minutes. Chacun d'eux comprendra environ 400 places. Dans le projet définitif, sur 33 km, longueur totale du métropolitain, 13 km seulement sont en souterrain. Il y a 15 km sur viaduc et 5 km en tranchée à ciel ouvert. Dans ces conditions, le métropolitain constitue un réseau d'omnibus perfectionné qui aura, dès le premier jour, une clientèle nombreuse. Si à New York, Berlin, Londres, les métropolitains se mettent en place, à Paris, en revanche, les projets restent sans suite. Il faut dire que les aménagements et les grands boulevards d'Haussmann facilitant la circulation, la guerre de 1870, la commune, le développement des tramways repoussèrent ce projet de chemin de fer urbain. À partir de la Troisième République, les ingénieurs reprirent l'habitude de proposer des projets qui s'opposaient dans le choix du métro aérien ou souterrain. Dans la Revue Générale des Industries Françaises et Étrangères de 1890, un article récapitule les projets depuis celui de Brahm et Flacha. Elle en comptabilisa 17, mais toujours aucun commencement de travaux. Il faut aussi ajouter un conflit entre la ville de Paris et l'État. Le 11 juin 1880, la loi sur les chemins de fer d'intérêt local transféra aux départements ou communes la compétence des projets pour la desserte des villes. La ville de Paris sauta sur l'occasion et en 1883 accepta le projet de Frédéric Soulier. 6 lignes reliant les principales gares, les Halles et le chemin de fer de ceinture, à la fois aérien et souterrain. Mais le Conseil d'État le repoussa, prétextant que l'accès à la capitale était d'intérêt national. Cette guéguerre durera quelques années, reposant sur des projets soutenus par la ville et refusés par l'État, ou vice-versa. Ce sujet préoccupait le vulgarisateur scientifique Louis Figuier, qui en 1886 écrivait dans l'introduction de son ouvrage « Les chemins de fer métropolitains » « L'exécution prochaine du chemin de fer métropolitain est un sujet de grave préoccupation pour la population de Paris, et on peut le dire pour la France elle-même, qui ne saurait être indifférente à ce qui se prépare dans sa capitale en fait de travaux publics. Les Parisiens, fiers et justement jaloux des beaux aspects de leur ville, se demandent avec inquiétude ce que vont devenir, au point de vue artistique et pittoresque, ces rues, ces places et ces boulevards une fois sillonnés de longues files de viaducs en maçonnerie destinés à supporter une voie ferrée. Et d'autre part, ils envisagent avec anxiété le parcours souterrain. Ils s'attristent par avance à l'idée de voyager d'un point à l'autre de Paris au fond de tunnels obscurs, froids et mal aérés, plein de vapeurs brûlantes et de fumée de charbon. Et ils plaisantent sur l'obligation de descendre à la cave pour monter en voiture. Dans son livre, Louis Figuier récapitule les avantages des métropolitains déjà en circulation, rappelle les 20 ans de recherche pour ce chemin de fer intramuros indispensable, évoque les avantages: diminuer les encombrements des rues principales et les causes d'accidents, rendre l'entretien des rues plus facile et moins coûteux, mettre à disposition des habitants des moyens de transport toujours prêts et suffisants pour une somme modique. Pauvre Louis Figuier. Heureusement qu'il n'est plus là pour constater les tarifs prohibitifs qui sont pratiqués par le métro aujourd'hui. Je voudrais, avant de continuer, ouvrir une petite parenthèse en ce qui concerne le chemin de fer de ceinture. Il existait deux ceintures, la petite et la grande. La petite ceinture était une ligne de chemin de fer à double voie de 32 km de longueur entourant Paris. Elle fut ouverte par tronçon de 1852 à 1869. Elle permettait aux trains de marchandises de contourner Paris puisque ses embranchements avec toutes les grandes lignes évitaient le trajet jusqu'aux gares terminus. Heureuse époque où des politiques pensaient à se servir du train pour transporter les marchandises. En 1862, elle s'ouvre aux voyageurs, particulièrement aux ouvriers qui avaient, je le répète, été relégués dans les quartiers périphériques par les travaux d'Haussmann. En compensation, le tarif des billets était très modéré. Cette ligne, à partir de 1934, sera peu à peu délaissée. À partir de 1990, elle sera laissée en friche et régulièrement sa réouverture ou sa reconversion est discutée dans les débats politiques. Quant à la grande ceinture, elle fut ouverte en 1875. C'est une ceinture périphérique ferroviaire établie à une quinzaine de kilomètres du boulevard périphérique. Elle fonctionna parfaitement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elle ne garda alors que le trafic de marchandises. Puis à partir de 1979, certains tronçons intégrèrent le RERC. Et puis après, c'est l'immense n'importe quoi de la SNCF que personnellement j'ai du mal à comprendre. Mais qu'en est-il du métro ? Eh bien, heureusement pour lui, la perspective de l'exposition universelle de 1900 mit fin au conflit entre l'État et la ville de Paris. L'État cède. Et donc la ville de Paris commence les travaux en 1898 sous la direction de Fulgence Bienvenue. La construction de 6 lignes est déclarée d'utilité publique. Ce sera un réseau souterrain, électrique et à gabarit réduit par rapport aux wagons du chemin de fer. La ligne 1 Maillot-Vincennes est ouverte le 19 juillet 1900 pour les Jeux Olympiques qui se déroulaient à Vincennes. Je laisse deux témoins en parler.
Alors ça m'a fait une grande impression d'avoir arrivé ce premier train souterrain. J'avais environ 6 ans et demi à cette époque. J'étais parti avec ma mère, qui avait des courses à faire du côté de l'hôtel de ville, et c'est avec une grande joie, je suis parti vers le métro à la station Obligado. Mais je dois vous dire qu'auparavant, j'avais déjà assisté aux travaux de percement du tunnel du métropolitain. Avec des petits camarades, après l'école, je descendais dans le souterrain et nous allions jouer à cache-cache. Très souvent, nous étions sortis par les ouvriers et quelquefois à coups de pied au derrière. Enfin est arrivé le jour de l'ouverture du métropolitain. Nous sommes arrivés à l'entrée du métro qui était décorée de drapeaux tricolores. Nous avons pris nos billets, comme c'était avant 9h du matin. Nous avions droit à des allers-retours à 20 centimes. Ensuite, nous sommes descendus sur le quai. J'ai eu un peu le temps de renifler une odeur spéciale du métro. Ça sentait le souterrain tout frais, mélangé avec une autre odeur de produit qui avait été employé. Ça sentait assez fort, c'était assez désagréable. J'ai remarqué que ces fort jolies dames qui attendaient sur les quais portaient parfois à leurs narines leur mouchoir qui était certainement très parfumé. Le métro est arrivé et d'abord j'ai été très content quand j'ai vu arriver le train. C'était très joli, les voitures étaient toutes fraîches peintes et l'intérieur était illuminé copieusement. Il y avait 4 voitures. Et je crois que la couleur extérieure était marron. Une fois qu'il était arrêté, nous sommes montés dans la première voiture, la voiture motrice. Mais aussitôt que le chef de train a donné le signal du départ par un petit coup de trompette, j'ai bondi de ma place, je me suis collé le nez sur la vitre de la cabine du conducteur. Et là, j'ai fait tout le voyage le nez collé à la vitre. J'ai entendu d'abord des déclics, de très forts déclics. Et au même moment, j'ai vu jaillir des étincelles et des grosses lueurs bleues. Alors je vous garantis qu'à ce moment-là, j'étais pas très rassuré. D'ailleurs, avant l'ouverture, j'avais entendu dire par des gens du quartier qu'ils n'aimeraient pas aller dans ce métro parce que ça pourrait s'écrouler. Mais au moment où j'ai vu les grosses lueurs bleues et les étincelles, moi aussi j'ai eu ma petite trouille. Et j'étais pas plus fier que ça, mais ça m'intéressait tellement que je décollais pas le nez de la vitre. J'ai vu des guirlandes d'ampoules de chaque côté du tunnel. J'ai admiré la petite ligne droite qui montait vers l'étoile jusqu'à la station Hôtel Deauville. Et nous sommes revenus par le même chemin et toujours le nez collé à la vitre. Et en arrivant, j'étais tellement content que lorsque j'ai rencontré mes petits camarades le soir, eh bien je leur ai expliqué tout ce que j'avais vu. Et je leur ai dit, vous savez, il faut y aller voir parce que c'est bigrement chouette.
Je vous remercie, monsieur.
Il n'y a pas de problème, monsieur.
Il courait dans Paris des bruits terrifiants, que les voûtes devaient dégringoler, qu'il y aurait des accidents affreux, et très peu de Parisiens se sont risqués ce jour-là, justement parce qu'ils avaient un peu peur. Le jour de mon anniversaire, monsieur, c'est pour ça que je me rappelle si bien. Nous étions toute une bande de jeunes qui étaient venus déjeuner chez moi et nous avons été jusqu'à l'hôtel de ville. Nos parents nous avaient défendu expressément de le prendre, mais comme nous avions avec nous les cousins qui arrivaient d'Amérique, ils nous avaient soufflé le vent de l'indépendance américaine. Il faisait un temps splendide ce jour-là, en descendant dans ces voûtes qui étaient glaciales, toutes sombres. Nous n'étions pas très fiers. Le quai était noir, il y avait fort peu de lumière, et le wagon est arrivé, il n'y avait personne. Nous avions pris les premières, naturellement, je crois que ça coûtait 25 centimes, et nous étions les seuls. Il y avait peut-être 3 wagons, 2 wagons de seconde et 1 wagon de première. Mais c'était les mêmes, l'un rouge et les autres verts. Et nous sommes mis dans ce wagon, nous n'étions plus gais là, c'était plutôt sinistre. Et nous avons été jusqu'à Vincennes. En voyant le ciel bleu, en sortant dans ce bois de Vincennes si beau, nous avons poussé un soupir de soulagement en disant « Mon Dieu, le soleil est tout de même plus beau que la cave. » C'était une véritable cave. Ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait une odeur épouvantable dans le métro. Une odeur d'antiseptique, une odeur de goudron, une odeur affreuse. Et quand nous sommes arrivés, nous avons dit bonjour à notre famille, naturellement, et ils sont tous écriés « Mon Dieu, d'où venez-vous comme vous sentez mauvais ?» Alors, nous avons tous crié, le métro. Oh, alors, on vous avait pourtant défendu d'aller dans le métro, et nous est rien arrivé. Alors, nous avons dit, nous le prendrons demain.
En 1903, Jules Hervieux, chef des bureaux et du service technique du métropolitain, publie un ouvrage sur la construction du métro, préfacé par Bienvenue, qui conclut par. Le 30 mars 1898, une loi ratifiant ces diverses décisions déclare d'utilité publique l'établissement dans Paris d'un chemin de fer métropolitain à traction électrique destiné au transport des voyageurs et la période de préparation est close. La période d'exécution qui a pris naissance au lendemain de ce jour forme la matière du livre de Monsieur Hervieux. Par ses fonctions, Monsieur Hervieux s'est trouvé intimement associé aux travaux de la première heure. Il en a vu le développement progressif. Il a pu se pénétrer des idées qui dominaient la conception et analyser les moyens qui servaient à la réalisation. Il était donc bien placé pour donner de l'œuvre accomplie depuis 1898 un exposé complet et précis. Son livre, exact et simple, sera consulté avec fruit par tous ceux qui voudront se former une juste idée du chemin de fer métropolitain municipal de Paris. Cette même année, eut lieu la seule catastrophe du réseau parisien. Un incendie se déclara sur une rame à la station Barbès. Elle était vide. Mais la rame suivante, pleine de voyageurs, fut arrêtée à la station Couronne. L'incendie s'amplifia, créant une épaisse fumée qui envahit le tunnel. Les voyageurs furent évacués, mais refusèrent de quitter les quais avant d'avoir été remboursés. Sous l'effet de la chaleur, les fils avaient fondu. La lumière s'éteignit, la panique s'installa, et les voyageurs tentèrent de s'enfuir. Mais ils allèrent à l'opposé de la sortie. Résultat, 84 morts par écrasement ou asphyxie. C'est à partir de cet incendie que les mesures de sécurité devinrent primordiales. Le métro continua à évoluer, à s'étendre, même pendant la Seconde Guerre mondiale. En voici la preuve par un documentaire INA.
À Paris, le mois d'octobre a vu la mise en service de nouvelles stations de métro. C'est au métro que revient actuellement la tâche d'assurer dans la capitale la presque totalité des transports en commun. La première ligne Maillot-Vincennes date de 1900. Si depuis le nombre de lignes s'est accru considérablement, cette extension n'en continue pas moins puisque deux tronçons viennent d'être livrés au public à 8 jours d'intervalle, d'abord à Charenton, puis à Pantin. Ainsi, le réseau continue son développement vers la banlieue immédiate. La population parisienne accueille avec plaisir ces nouvelles stations qui lui apportent un peu plus de commodité à une époque où elle en est en privé par ailleurs. Signe étant, tout le monde maintenant utilise le métro. Aussi ne s'étonne-t-on pas si on y rencontre des vedettes comme Suzy Solidor, Spinelli, Jean Tissier, Sessu Hayakawa, Fréhel et Georges Carpentier. En 1932, le métro transportait un peu plus de 2 millions de voyageurs par jour. En 1942, près de 3 millions et demi. Deux fois le tour de la Terre, en mettant bout à bout les parcours quotidiens des trains en service, on arrive à un total de 80 000 kilomètres. Ces chiffres témoignent de l'effort réalisé par le métro dans un moment difficile.
Après la guerre, en 1848, furent créés l'Office régional des transports parisiens et la Régie autonome des transports parisiens, la RATP. Peu à peu, le métro se modernisera, ainsi que le matériel. De parisien, le métro deviendra régional, et puis ce sera le RER, et puis c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce métro moderne, automatique, qui n'est qu'un lointain cousin de ce métro performant aux tarifs modérés que seuls ceux de ma génération ont encore connu. Je ne résiste pas à la tentation de conclure sur la publicité datant de 1981 de la RATP. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc.
Tic-tac-toc, t'as le ticket clic.
T'as le ticket clac, t'as le ticket cloc, ticket-ticket-toc.
T'as le ticket chic, t'as le ticket choc.
Ticket-ticket-toc.
Démarquez-vous. Prenez la deuxième voiture.
Alors, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Thank you.